Bonjour, chers amis auditeurs, pardon. Bienvenue dans cette nouvelle édition des répliques du Nouveau Conservateur. Nous allons aujourd'hui parler de la dictature du bien autour du livre de Jean-Frédéric Poisson, que je salue, qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour Jean-Frédéric.
Bonjour Guillaume, merci.
Vous êtes président de VIA, le PCD, et vous êtes aussi ancien député. Et donc vous venez de publier aux éditions Le Verbe Haut un livre qui s'appelle La dictature du bien, un oxymore comme on les aime. Mais on va y revenir longuement parce que le temps de Macron était vraiment un temps de dictature du bien. Et pour lui porter la réplique, si je puis dire, Fabrice Madouas. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Journaliste à France Catholique, et on va parler aussi en particulier de l'application de la dictature du bien à l'euthanasie, puisqu'il y a quand même quelque chose d'assez fascinant dans le débat actuel, c'est que pour notre bien on va être éliminé, c'est pratique. Et puis, de loin, Paul-Marie Couteau nous suit, mais je crois qu'il n'a pas encore de micro, donc il va intervenir dès qu'il sera joignable. Mais tout de suite, je me tourne vers Jean-Frédéric. Bon, vous avez écrit donc la dictature du bien. Ça sonne quand même comme un oxymore. C'est bizarre de parler de dictature du bien. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
C'est justement, vous avez raison de dire que c'est paradoxal parce que dans la philosophie et la théologie classique, on apprend que le bien est diffusif de soi. Bonum diffusivum sui, pour ne parler que
la langue de tout le monde.
En anglais.
L'anglais qu'on comprend.
C'est ça. Ce qui veut dire qu'en fait, il s'impose de lui-même. En douceur, si j'ose dire. Et là, nous vivons dans une période dans laquelle ceux qui nous gouvernent, enfin disons ceux qui ont le pouvoir, ce qui n'est pas la même chose que de gouverner,
la même chose. Ceux qui nous administrent en fait.
ont décidé qu'il y avait un discours et un seul acceptable dans le débat public, que tous les autres discours étaient réputés faux, dangereux, nuisibles. Et il fallait donc les interdire au nom du bien qui est porté par le discours officiel. Et c'est pas la première fois dans l'histoire des hommes que ça arrive, mais c'est la première fois qu'on nous fait passer le discours d'une autorité qu'on peut appeler dictatoriale sans exagérer, pour non seulement le récit du pouvoir, ce qui était la formule classique de la dictature jusqu'ici, mais c'est pas seulement le récit du pouvoir, c'est le seul récit politique possible.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Que tous les autres, que je disais, ils sont soit malsain, dangereux, nuisible, mais par ailleurs, ils sont irrationnels. Ils sont faux.
C'est ça.
Et ils sont frappés.
Au nom de la science, on ne peut pas vous autoriser à dire ça.
Voilà.
Et donc, au nom de la science, on interdit toute recherche scientifique, par exemple.
Alors, au nom de la science, il est interdit de contester les conclusions du GIEC sur le réchauffement climatique.
Donc, on s'interdit de faire de la science.
Il y a une canicule en France quand, je ne sais plus dans quelle publication j'ai lu, que la carte mondiale des températures pour la même période a montré une augmentation de 0,5 degrés sur la surface du globe. Ce qui n'est pas exactement la caractéristique d'une canicule. Donc au fond, si vous voulez, il y a des choses qui sont imposées à nos intelligences, ce qu'on nous en laisse en tout cas, et en dehors de ça, vous n'avez pas le droit, vous avez de moins en moins le droit de dire autre chose que ça. Parce que par ailleurs, si vous avez le droit de dire autre chose que ça, vous devenez un ennemi politique qu'il faut faire taire dans un premier temps, arraisonner si c'est nécessaire dans un deuxième temps, et puis alors faire taire définitivement, on dirait neutraliser dans le langage des services secrets.
Sachant que sans aller jusqu'à l'élimination physique, en fait, on a des comme maintenant tout est très connecté, il est extrêmement facile de sortir quelqu'un du débat public et même de l'existence normale. Il suffit de lui couper ses comptes en banque, ce qui est un clic et le type cesse d'exister littéralement.
Merci de faire cette transition parce que j'étais sur le point d'évoquer justement ce sujet comme un exemple très patent. La loi dite Retailleau, adoptée par le Sénat il y a maintenant 2 ou 3 semaines, je crois, prévoit dans son premier article que, grosso modo, si vous avez le malheur de porter un discours ou des actions qui mettent de manière sérieuse en danger les institutions ou la République, alors mettre en danger, c'est tout de même, enfin, l'appréciation est assez élastique, voilà, c'est ça. J'aime pas l'élasticité du droit pénal, ça me gêne toujours un peu. Et bien, si jamais vous êtes coupable d'un tel discours, d'une telle action, le préfet, sur avis du ministre de l'Économie et des Finances d'un côté et du ministre de l'Intérieur de l'autre côté, peut à tout moment geler vos comptes, supprimer vos moyens de communication et vous empêcher purement et simplement de participer par quelque moyen que ce soit au débat public, sans jugement.
Juste un instant, Jean-Frédéric, il y a Paul-Marie qui vient de nous rejoindre, je crois qu'il peut parler. Bonjour Paul-Marie.
Oui, j'ai dit bonjour à tout le monde, mais je reste silencieux pour l'instant.
C'est que Paul-Marie Couteau puisse parler, c'est voilà qui m'étonne. Mais...
Allez. Vous avez la barre, je vais me taire pour étonner encore plus Jean-Frédéric Poisson. il va pas en revenir, mon silence va l'éblouir.
Je ne sais pas s'il vous le dira, il m'étonnerait en tout cas. C'est toujours
bonsoir
ça.
Bonsoir à l'autre Frédéric Madouane.
Voilà. Fabrice.
À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'interviens.
À tout à l'heure. Merci. Oui, donc effectivement, il y a cette loi que j'ai trouvée incroyablement liberticide. C'est déjà assez fascinant, je trouve, qu'il y ait un article de la Constitution qui interdise la remise en cause de la forme républicaine de l'État. Je trouve ça assez rigolo que la Constitution interdise la possibilité de discuter de la Constitution. Je trouve ça rigolo. Mais par ailleurs, que le simple fait de mettre en doute... Et objectivement, aujourd'hui, on a quand même deux, trois raisons de se demander s'il y a toujours un État, par exemple. Et c'est une petite remise en cause de la forme actuelle de gouvernement. On peut aussi se demander deux, trois trucs quand même sur la situation.
Par exemple, l'article 1 de la loi dite Retailleau, qui, je ne sais pas ce qu'il va faire dans cette galère, comme le personnage de Molière. C'est vraiment très contre-productif, y compris pour sa propre campagne présidentielle. C'est ça j'ai du mal à comprendre. Au titre de cet article, si jamais vous venez à l'idée... un jour où vous seriez chafouin, vous seriez levé de mauvaise humeur, de contester le bouclier démocratique européen.
Ce qui serait vraiment ballot.
Ce qui vraiment n'aurait d'abord aucune bonne raison d'être devant. Mais malheureusement, sans plaisanterie, c'est-à-dire ce dispositif européen qui en réalité donne la possibilité à la Commission européenne, au nom de quel droit, on n'en sait rien, en fait d'annuler purement et simplement les élections dont les résultats ne lui plaisent pas. Pour dire les choses à la serpe, mais enfin c'est quand même ça. Et par ailleurs, chemin faisant, de priver tous ceux qui sont concernés de les moyens de communication, des trucs, etc. Oui. D'où le DSA, la fameuse censure de M. Breton, etc. Imaginez que, parce que vraiment vous êtes de mauvaise humeur ce matin-là, vous dites contestiez cette chose-là. Alors on pourrait tout à fait vous objecter que, madame, monsieur, vous mettez en cause un des piliers de la défense de la démocratie dans l'Union européenne et donc en France, qu'à ce titre, on considère que vous mettez gravement en cause et en danger
les institutions,
et donc, à défaut de vous couper la tête, on vous coupe les vivres, le micro et tout le reste. Et petit à petit, s'instaure dans une forme de douceur, et au nom du bien, c'est toujours pareil, c'est pas au nom du vrai ou du juste, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est au nom du bien. C'est-à-dire de ce qu'il y a de plus parfait dans l'ordre de l'action humaine, puisqu'on est en matière pratique ici. Bien cette idée que voilà, il n'y a que le discours de la Commission de Bruxelles et du pouvoir exécutif français qui ont droit de citer, c'est le cas de le dire. Tous les autres n'ont pas le droit de citer en principe, mais comme on peut pas leur couper la chic tout de suite, on va le faire morceau par morceau, pas à pas.
C'est intéressant ce que vous dites sur la distinction entre bien et vrai, parce qu'il y a une chose qui me fascine, moi, dans l'évolution de la jurisprudence du droit de la presse, c'est la quasi-disparition de ce qu'on appelait naguère l'exception de vérité. C'est-à-dire que quand on diffame quelqu'un, quand on dit « Monsieur Machin est un imbécile », si on est capable de prouver que Monsieur Machin est un imbécile, avant... ça n'était pas de la diffamation, c'était autre chose, ça pouvait être éventuellement de l'insulte, mais ça n'était pas de la diffamation. Et en particulier, quand vous disiez « mon adversaire a reçu des financements illégaux », si vous aviez la preuve de ces financements illégaux, vous étiez débouté. Aujourd'hui, la jurisprudence ne nous garantit plus que si on a les preuves, on peut gagner. Ce qui est assez fascinant, je trouve, parce que dans ces cas-là, en fait, on voit même pas sur quelle base on peut discuter.
Ben, c'est tout le problème, c'est que le problème du monde de la post-vérité dans lequel apparemment nous sommes entrés écarte du débat public l'idée même d'une référence objective commune. C'est-à-dire que dans l'ancien monde, qui n'est pas si vieux que ça au fond, il y avait malgré tout cette idée que, à défaut d'être d'accord, on pouvait au moins parler de la même chose. Je me souviens que dans les différentes batailles que j'ai conduites contre les gouvernements socialistes de M. Hollande, il y en a eu quelques-unes, et contre un certain nombre de ministres, on n'était pas d'accord ni sur la Constitution, ni sur les lois, ni sur un certain nombre, mais au moins on parlait de la même chose. Notre base de discussion était la même. Donc à défaut d'avoir des conclusions, c'est ce que disait Saint-Exupéry au fond au chapitre 8 de Terre des Hommes, hein, c'est les hommes sont d'accord sur les fins, c'est sur les moyens qu'ils se divisent. Là, on était d'accord pour dire, bon, il y a une Constitution, il faut l'arranger comme ça, mais il y avait une base commune qui était considérée comme, d'une certaine manière, le vrai. Ce dont on parle, quelque chose qui est objectif, c'est-à-dire en dehors de nous. Le triomphe de la subjectivité veut dire que chacun est porteur de son propre discours de vérité, et qu'après tout, le mien vaut bien n'importe celui de n'importe qui d'autre, y compris ceux qui n'ont ni expérience ni savoir-faire, ou dont l'expérience et savoir-faire sont complètement déconnectés de la réalité que les examine. Enfin, on peut avoir tous les cas de figure, et après tout se vaut, c'est le triomphe du relativisme en réalité. Et on est en train de toucher du doigt le fait que le relativisme, mais ça les philosophes grecs nous prévenus depuis longtemps, le relativisme a deux conséquences, la fracturation du corps social d'un côté et l'installation d'un régime autoritaire qui en est la conséquence de l'autre côté. Nous sommes exactement en plein dedans.
Ce qui est là encore est paradoxal, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est totalitaire de chercher à défendre la vérité, alors que c'est en fait l'exact inverse qui est vrai, c'est que si on cherche la vérité, c'est que nous faisons le pari que notre interlocuteur a les mêmes moyens que nous d'y parvenir, et que peut-être on pourra même trouver un terrain d'entente.
Ça va faire plaisir à Paul-Marie Couteau par anticipation, mais c'est la grande intuition de Platon. C'est le fait de faire confiance, le fait que nous avons en partage l'intelligence, et que parce que nous avons cette intelligence en partage, le dialogue permet d'accéder à une vérité supérieure par la bonne foi, et les pratiques habituelles et normales du raisonnement partagé. C'est là-dessus qu'est fondée l'idée de la cité grecque, au fond, qui a beaucoup de défauts, mais qui a quand même quelques vertus.
Quelques vertus, ouais.
Cette idée est abandonnée aujourd'hui. Ouais. Quand vous voyez la manière dont s'affrontent, il n'y a pas d'autre mot, les députés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, c'est un peu plus calme au Sénat, mais ça a toujours traditionnellement été plus calme au Sénat. C'est Boissy d'Anglas, le révolutionnaire, qui disait « Il faut comparer l'Assemblée nationale et le Sénat comme on compare l'imagination de la République à la raison de la République. » C'est tout est dit. Il y a l'épaisseur de la moquette aussi au Sénat.
Oui, c'est ça, tout, exactement.
Il n'y a pas moins de corps qui tombent, mais ça fait moins de bruit. C'est ce que j'ai l'habitude de dire.
C'est ça.
Donc, au fond, l'affrontement des députés à l'Assemblée nationale révèle ça. C'est-à-dire que quand il n'y a plus la conviction que votre interlocuteur est tout aussi un sujet rationnel que vous, qu'il est digne comme vous et qu'il a le droit de participer au débat comme vous, qu'il lui aussi qu'il a le droit d'avoir sa part d'appréciation des choses et qui, en matière d'opinion, peut être tout aussi vrai que la vôtre, il n'y a plus de dialogue, s'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de cité. C'est aussi simple que ça.
C'est d'ailleurs une des phrases politiques devenues les plus fréquentes, c'est « vous n'avez pas le droit de dire ça ». Ben si, en fait, en réalité, si.
Si je regarde bien les textes fondateurs, en fait, si. En réalité, mais c'est vraiment toute la question de la vérité, son absence et sa manipulation, ce qui est un autre problème. Je consacre une partie de mon livre aussi à l'instauration de la manipulation comme instrument permanent de gouvernement. Ça, c'est un phénomène qui arrive après la Première Guerre mondiale, sous l'impulsion des libéraux américains. Et le problème, c'est que rien ne divise comme le mensonge. Enfin, nous en faisons tous l'expérience dans nos vies personnelles, que ça soit individuellement, collectivement, dans nos familles, nos entreprises, associations, les groupes humains auxquels nous participons. Une fois que le mensonge est installé, plus rien n'est possible. C'est la très belle phrase de Nietzsche, le problème c'est pas que tu m'aies menti, c'est que maintenant je ne pourrai plus te croire. Ce qui dit au fond qu'il y a un ferment de destruction de toute forme de relation qui est pire que tout. Si le prince de la division est également le prince du mensonge dans la tradition chrétienne, enfin hébraïque et chrétienne, c'est pas par hasard qu'il est nommé comme ça, c'est qu'une fois que ça s'installe, il n'y a plus rien. Enfin, ça devient très difficile. Et il faut faire ce reproche aux médecins, aux scientifiques ou prétendus tels qui, pendant la crise sanitaire, nous a rencontré des bobards à longueur de journée. J'ai échangé avec eux, un d'entre eux il n'y a pas très longtemps, qui est un de très bonne volonté, très éminent médecin, à qui j'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que, enfin, vous avez quand même raconté, ils nous ont raconté des cracks à la télévision pendant un moment, et ceci dit sans aucune espèce d'exagération, parce qu'on pourrait dire bien plus les choses de manière bien plus sévère. Il m'a répondu, mais oui, mais si vous savez, si on n'avait pas dit ça, il y a des tas de gens qui étaient des populations à risque, qui ne seraient pas du tout allés se faire vacciner, donc il y avait un danger sanitaire. Je lui ai dit, écoutez, peut-être, moi, ce que vous dites là dépasse ma compétence, je ne peux pas en être juge. En revanche, je sais une chose, c'est que le dégât qu'a fait ce mensonge, le prix du mensonge à payer est infiniment supérieur en réalité aux vies que vous avez peut-être sauvées, parce que là aussi il faut être modeste, mais la défiance à l'égard du discours scientifique et médical désormais, la défiance à l'égard des institutions, est une chose qui va être très très difficile de réparer. De la même manière qu'un mensonge dans une relation amicale ou amoureuse est extrêmement difficile à réparer. Extrêmement difficile.
Je me tourne vers le journalisme, parce qu'en principe, un journaliste s'est fait, entre autres, pour aller chercher la vérité. Comment vous réagissez, Fabrice, à ces propos de Jean-Frédéric?
D'une part, en fait, je l'écoute avec beaucoup d'intérêt et je mesure à chaque fois, en fait, toute sa culture quand je l'ai en face de moi. Sur le débat, je crois qu'il y a à la fois, effectivement, la volonté de débattre et il y a la capacité, en fait, à débattre. Et aujourd'hui, il y a évidemment, chez certains, une volonté de ne pas débattre, mais il y a aussi une incapacité à débattre, je pense. J'ai le souvenir, en fait, un jour, croisant feu Monseigneur 23, c'était au moment du mariage pour tous, des débats, en fait, sur le mariage pour tous, mariage homosexuel, et il venait, en fait, de rencontrer Christiane Taubira, et il dit, mais on ne se comprend plus. Il dit, c'est extraordinaire, on n'a plus du tout en fait, de référence commune, on n'a plus de référentiel commun. Bon, ça, on en connaît la cause, évidemment, la sécularisation en fait, de la société, la déchristianisation, etc. Donc, il n'y a plus, en fait, finalement, de valeurs communes sur lesquelles on pourrait se retrouver et essayer, en tout cas, au moins d'en débattre. Donc, il y a la question de la capacité à débattre.
Je coupe juste une minute. Il y a évidemment le sujet de la sécularisation et de la déculturation du christianisme, mais il y a aussi des choses qui, peut-être, sont encore plus graves. C'est le fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne voient pas la différence entre donc, mais, car.
Oui.
Et moi, je suis très surpris. moi, je suis. Et en fait, l'argumentation cesse complètement d'exister.
La construction de la syntaxe est évidemment très, très problématique aujourd'hui. Il y avait ce matin un petit sujet en fait, sur une radio quelconque qui expliquait qu'on ne sanctionnait plus. En fait, le ministre de l'Éducation avait donné pour consigne de sanctionner les copies qui seraient parsemées en fait, de fautes d'orthographe. Évidemment, ça n'a pas été fait et on a un syndicaliste du SNUIPP qui nous a dit « Non, mais quand elles sont incompréhensibles, on ne met pas la moyenne. » Bon, voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, alors, certains pourraient penser qu'il y a un projet culturel, si j'ose dire, derrière en fait, l'abaissement en fait, du niveau. Bon, c'est vrai qu'on peut former des consommateurs à défaut en fait de former des hommes qui réfléchissent. Donc il y a la capacité et puis il y a également en fait la volonté. L'expression tout à l'heure c'est vous avez dit mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais elle se double en fait souvent d'une expression mais vous ne pouvez pas dire ça. Oui. Et là en fait on est dans le domaine en fait du moralisme, oui. de la moraline, bon etc. Et donc sont exclus du cercle de la raison toute personne qui ne partage pas les idées communément répandues. Admise à Bruxelles, à Paris, et je ne sais en fait dans quel cénacle. Donc voilà, on pathologise.
Idée qui par ailleurs change avec une vitesse incroyable, parce que il était évident que la Terre se refroidissait il y a 40 ans, il est donc évident qu'elle se réchauffe aujourd'hui, il est évident aussi que c'est parce qu'on conduit des pétrolettes, bon, peut-être, tout ça est peut-être vrai, mais enfin, il n'empêche que ces évidences successives détourne un peu de la confiance et il n'est pas absolument certain qu'on nous raconte n'importe quoi.
Oui, oui, mais...
c'est ça. C'est la célèbre phrase de Guitry de « Pardon, pardon, mesdames, je... le pire avec les femmes, c'est qu'on ne peut même pas être sûr qu'elles mentent. je vous présente mes excuses, mesdames les auditrices, mais je ne peux pas résister. » C'est vrai d'un certain nombre de macronistes aussi, c'est ça le problème, c'est que de temps en temps, ils disent quand même des choses justes. Le tout, c'est d'arriver à le repérer dans le fatras. Mais par ailleurs, il y a aussi ce fait qui est une cause pour moi d'étonnement, c'est que quand vous reprenez le célèbre discours d'Al Gore, l'ancien vice-président américain, qui date des années 2000, je crois, ou quelque chose comme ça, qui prédisait qu'en 2020, les îles Maldives seraient submergées, qu'il y aurait plus de la moitié des Pays-Bas sous l'eau, et quand on regarde ce qui est passé aujourd'hui, tout ça avec l'éternelle gravité des cuistres, comme disait le père Rucberger, si vous regardez ce que vous avez sous les yeux, il ne s'est pas passé grand-chose de tout ça, en réalité.
Ah bon ?
Bon. Et par ailleurs, enfin, il y a deux, trois livres que j'invite nos auditeurs à lire. Le premier, c'est un livre assez compliqué, mais très, très passionnant, d'un monsieur qui s'appelle Kunin, c'est l'ancien conseiller scientifique de Barack Obama. C'est un homme qui est bardé de diplômes, enfin, il fait partie de toutes les académies que les Américains ont fondées sur le plan scientifique. Je crois qu'il est astrophysicien de formation d'origine, c'est un savant, très grand savant, qui a publié un livre pour expliquer qu'en fait, tout ça n'était pas si sûr en réalité et qu'il fallait faire attention avec les conclusions. C'est-à-dire que les modèles sur lesquels on appuie nos conclusions, c'est pas que les modèles soient faux, c'est que les conclusions ne permettent pas de tirer les conséquences pratiques qu'on en tire. Donc il y a une espèce d'abus. Et le deuxième, c'est sur l'écologisme, livre d'Yves Roucaute, qui doit être l'homme le plus diplômé de France, ou à peu près. Et plusieurs agrégations, plusieurs doctorats, des conseillers de plusieurs ministres, etc., sur l'écologisme, et qui fait un catalogue de toutes les erreurs manifestes que le mouvement écologiste a propagées sur la biodiversité, le climat, le réchauffement, l'azote, enfin, il y en a un catalogue. Alors, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez piocher dans le truc un peu au gré de votre humeur, donc vous n'êtes pas obligé de lire ça dans la continuité. Donc ça, c'est très facile pour les feignants, ou ceux qui n'ont pas le temps. Et donc, on voit que des esprits très éclairés, quand même, nous alertent sur le fait... Que le GIEC soit pas malhonnête, très bien, que ces modèles scientifiques soient construits de manière formellement acceptable sur le plan scientifique, épistémologique, parfait. Le problème, c'est que les conclusions qu'on en tire ne peuvent pas être raisonnablement tirées des données qui sont issues de ces modèles. Donc pourquoi, de quoi vous nous parlez en fait? Et particulièrement quand on tire de ces conclusions pratiques abusives des réformes politiques qui ne sont pas moins. Oui. Donc il y a un moment où on se dit, mais quand même, il va falloir...
À propos de réformes politiques, je me souviens de la conclusion d'un bouquin de Girondeau qu'on avait reçu de Strophe au Nouveau Conservateur, mais qui lui aussi est un grand scientifique et un grand anti-écologiste primaire, et qui finissait, donc après 250 pages de démonstrations assez éblouissantes, il y avait un dernier paragraphe qui disait, si j'ai bien compris ce que nous a expliqué le GIEC, on va dépenser je sais plus combien de centaines de milliards d'euros d'ici 2050 pour retarder de 6 mois la fin du monde.
Quelque chose comme ça. Non mais ce qui est, par ailleurs, c'est terrible, parce que pour revenir à la question de la dictature du bien, voilà typiquement le genre de discours auquel vous n'avez pas le droit de vous opposer. Vous ne pouvez pas être en désaccord avec, Alors de temps en temps, ils se rendent compte qu'ils sont allés un peu loin. Quand j'ai lu l'article de vos confrères de Libération, il y a 10 jours, je crois, sur la climatisation qui devient un problème politique, voilà, je me suis dit, mais là, on commence à entrer dans des zones un peu inconnues, quand même. C'est quand même... Non, c'est pas comme si on avait autre chose à faire sur le plan international, par exemple. Vous voyez, c'est pas... Bon, c'est un luxe de riche, c'est-à-dire, tiens, on va passer 2 jours sur la climatisation. Waouh, c'est quand même...
Et puis... Par ailleurs, j'ai noté en fait que le chef de l'État en fait se préoccupait de la santé en fait des personnes âgées. Dans le contexte actuel,
ça confine au conflit d'intérêts.
Avant de les piquer, on va faire en sorte qu'elles soient climatisées, c'est bien.
Voilà. Non, alors moi, je n'ai pas de compétences particulières scientifiques en fait sur le climat, etc. Mais de temps en temps, très ponctuellement, on entend parler en fait du trou dans la couche d'ozone.
Non,
alors le trou dans la couche d'ozone, en fait, c'était la catastrophe annoncée, etc. J'ai appris en fait il y a un an ou deux qu'a priori, mais vraiment au détour d'une phrase, en fait, sur France Inter, France Info, je ne sais pas, enfin bon, j'écoute parfois en fait de mauvaises radios, enfin bon. Et que ben non, finalement, en fait, non, contrairement à ce que l'on pensait, le trou dans la couche d'ozone, tout allait bien.
Ah, il faudrait lancer une alerte enlèvement sur le trou de la couche d'ozone.
Il avait disparu.
Il y a quelqu'un qui nous l'a piqué.
Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais enfin, bon, vraiment. Enfin, voilà. Bon,
mais ça, non, mais là, c'est là qu'on entre dans le discours, parce que ce discours est formidable. Vous savez, c'est la question de la falsifiabilité de Karl Popper, c'est-à-dire qu'il disait, si vous voulez vous assurer qu'un discours peut être vrai, assurez-vous du fait qu'on peut le réfuter, on a le droit de dire que c'est pas vrai. Mais là, vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas vrai, parce qu'on va vous dire quoi? On va vous dire que c'est grâce aux dispositions politiques qu'on a prises pour faire cesser l'émission de gaz à effet de serre que le truc d'ozone a pu se reconstituer. On n'en sort jamais, si vous voulez, de ce truc-là. Donc c'est pas falsifiable. C'est pas vérifiable non plus, d'ailleurs, c'est l'inverse est vrai. Et donc, on est vraiment dans l'élaboration thème par thème, avec une prédilection quand même pour l'écologie au sens intégral du terme, c'est-à-dire que ce soit celle de la nature et de l'environnement ou l'écologie humaine, si les thèmes thématiques qui concernent l'être humain, et puis les institutions. Sur ce triangle-là, vous élaborez un discours totalitaire au sens où il est englobant. Totalitaire au deuxième sens où il entend entrer dans les esprits et supprimer le fort interne et le fort externe, c'est ça que ça veut dire, totalitaire, et en définitive, le tout par l'usage de la coercition et de la force. C'est la société dans laquelle nous sommes. Ça n'est pas une société fasciste, c'est-à-dire de gauche, fasciste égale de gauche, il faut quand même s'entendre, ça n'est pas une société dictatoriale au sens où les régimes autoritaires droitiers, les franquistes, les salazaristes, les colonels grecs ou... les Argentins l'ont inventé, c'est un système néolibéral. C'est ça la grande escroquerie. Et c'est ça qui a motivé l'écriture de ce livre. C'est qu'au fond, quand je vois ceux qui sont au pouvoir nous expliquer qu'ils sont le dernier rempart contre la disparition des libertés, c'est après eux soit le chaos, soit le fascisme, et pour eux c'est pareil. Alors, il dit ça, d'une part, puis d'autre part, il y a la réalité quotidienne, où il ne cesse de dire, on va interdire ça, on va empêcher ça, on va raboter ça, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. La conjonction de ces deux propositions, de ces deux attitudes, est quand même problématique, c'est un oxymore, au moins. Et je me suis dit, mais alors, est-ce qu'ils sont aveugles? Est-ce qu'ils sont bêtes? Est-ce qu'ils sont menteurs? Est-ce que c'est les trois à la fois, parce que c'est pas permis? Ou alors, est-ce qu'il y a un projet politique derrière ça? Et je ne pensais pas qu'on pouvait fonder un projet politique sur l'idée du mensonge collectif, de la manipulation et de l'effacement camouflé de la souveraineté du peuple. Or, ce projet politique existe. C'est celui que je décris dans La dictature du bien, c'est le projet inventé par les néolibéraux après la Première Guerre mondiale, les Américains Edward Bernays et Walter Lippmann, qui, pour le premier, inventent la publicité et les relations publiques et transfèrent cette mécanique de propagande à la politique. Et le deuxième, par dépit de voir que décidément le libéralisme, au sens où l'entendaient les classiques, c'est-à-dire la confiance dans la souveraineté de la raison individuelle et l'économie de marché ou le commerce comme moyen de l'émancipation d'individus et de cette souveraineté individuelle, ça fait la crise de 1873, ça fait la Première Guerre mondiale, ça fait la crise de la surproduction des années 20, les fameuses Roaring Twenties qu'on a appelées les années folles en Europe. Et donc ces libéraux se disent, mais c'est pas possible, ça marche, notre truc marche pas. On a deux jambes, hein, la souveraineté de la raison individuelle et le marché libre. Il va falloir qu'on en immobilise une, parce que quand on laisse les deux aller en même temps, ça part dans tous les sens. Mais on ne peut pas supprimer le marché, parce que si on supprime le marché, et si on le régule de trop, il n'y a plus de prospérité possible. Donc il va falloir se débrouiller pour canaliser la liberté pour qu'elle serve les intérêts de la prospérité du marché. Et donc ce renversement, il est simple à comprendre. Les libéraux classiques, je parle d'Adam Smith, des grands théoriciens, les premiers, disaient, bon, le marché au service de la liberté individuelle et de l'émancipation de l'individu à l'égard du pouvoir de l'arbitraire monarchique. Car dans l'acte de commerce, il n'y a pas d'inégalité par définition. C'est un acte synanagmatique, comme disent les juristes. Donc je vous donne 10 balles et puis vous me donnez, et on n'en parle plus. On est à égalité totale, parfaite. Il n'y a pas de perturbation. Donc le commerce devait servir cette égalité individuelle et la défense, l'élaboration, l'installation de droits individuels avec le régime politique qui en découle, c'est-à-dire celui de la démocratie libérale et plus tard de l'élection. Les néolibéraux font l'inverse. Il faut sacrifier ce qu'il faut de la liberté individuelle pour que le marché fonctionne. Et là, on entre dans le vrai domaine du quoi qu'il en coûte institutionnel, c'est-à-dire s'il faut que l'État libéral, néolibéral, dépense des millions, s'endette par milliards pour atteindre cette fin, alors on le fait. C'est le libéralisme de Reagan, j'ai beaucoup de sympathie pour le président Reagan pour beaucoup de motifs, mais il est celui qui aura le plus endetté les États-Unis de toute l'histoire des États-Unis. C'était quand même pourtant pas un démocrate, à ce que je sache. Mais parce qu'il y a un moment où les impératifs stratégiques de l'État nécessitent qu'on s'endette, donc on s'en fout de la non-intervention de l'État quand on est libéral, on endette l'État parce qu'il faut. Voilà.
Comment vous expliquez, parce que j'entends très bien la logique néolibérale qu'il y a derrière, mais le projet politique dont vous parlez, le plus abouti actuellement dans le monde, est en Chine, qui n'est pas exactement le pays néolibéral le plus évident.
Ben c'est un pays qui a sacrifié tout au fonctionnement de l'économie capitaliste de marché, fut-elle pilotée par l'État. En fait, la prospérité de la Chine, elle se fait par l'installation d'un capitalisme qui est piloté depuis Pékin par le gouvernement central et le Parti communiste central, au moyen d'un système de crédit social, c'est-à-dire de surveillance généralisée. Alors ça n'existe pas partout en Chine, mais là où ça existe, c'est quand même très très furieux. J'y consacre d'ailleurs un chapitre dans mon livre pour expliquer quel type de système ça représente. Je suis allé chercher d'ailleurs des textes officiels du gouvernement chinois, qui est tout à fait prolixe sur ses intentions, qui explique que le système de crédit social, c'est-à-dire de surveillance généralisée, n'est que la continuation du régime socialiste, etc., et donc la garantie d'avoir des citoyens dignes de confiance, etc., enfin tout ce qu'on peut imaginer comme bon, et qui par ailleurs fait fonctionner le capitalisme à plein pot, parce que les deux vont de pair. Le capitalisme n'est pas compatible qu'avec la conception libérale de l'État. Ça, c'est un fantasme occidental, ça n'existe pas. Le capitalisme, en fait, il est à géométrie absolument variable et d'une capacité de caméléon, c'est-à-dire qu'il se met n'importe où pour vous que vous laissiez l'argent faire son... l'argent faire son beurre.
Ce qu'on lui contestait les classiques, justement.
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc en fait, c'est une manière, la Chine, il n'y a pas que celle-là. Aujourd'hui, il n'y a pas que celle-là parce que le modèle chinois, c'est très intéressant d'ailleurs, je m'en suis rendu compte après en fait, d'avoir publié ce livre, c'est dommage, j'aurais peut-être pu compléter un peu, mais ce qui est très intéressant, c'est que le crédit social chinois s'enracine à la fois dans la révolution maoïste et dans l'installation du socialisme, mais le nombre de... Il y a des petites histoires sur le site du gouvernement chinois pour expliquer pourquoi, comment il faut se comporter, la vertu, etc. etc. Et il y a deux types d'histoires. Il y a des histoires issues de la révolution culturelle maoïste, et il y a des histoires qui sont des très grands classiques de la littérature confucianiste. Mmh. Donc en fait, les Chinois, mais c'est parfaitement conforme à leur culture, enracinent la modernité le plus profondément possible dans l'histoire et les traditions culturelles antiques et anciennes. Le néolibéralisme européen, lui, il fonctionne à l'inverse. Oui. Dans la mesure où il a besoin d'éradiquer les libertés individuelles de manière calme et tranquille, sans que personne s'en rende compte et que personne ne proteste trop fort, pardon, il procède à tout ce qui est contraire à ce que nous avons connu en Occident jusqu'ici, c'est-à-dire le déracinement, l'isolement, c'est-à-dire tout ce qui est l'intégralité des appartenances collectives, qu'elles soient symboliques ou matérielles, à un corps social de près ou de loin, est supprimé pour isoler les individus, les uns à part des autres, et faire en sorte que l'État, à leur égard, devienne tout puissant. C'est l'affaire de la disparition des corps intermédiaires et le fait de réduire les individus à un consommateur le week-end, un producteur le jour, un dormeur la nuit, et le reste du temps, s'il peut se taire en plus, c'est tout bénef.
Oui, alors juste un petit mot, chers amis auditeurs, pour vous rappeler qu'il faut soutenir Radio Courtoisie.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Voilà, chers amis auditeurs, vous savez que Radio Courtoisie ne vit que grâce à nous tous, donc n'hésitez pas à soutenir. Fabrice, est-ce que vous voulez réagir à cette idée de crédit social? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut résister à cette espèce de vague qui a l'air quasiment inexorable, quoi?
Bon, déjà par la culture, hein, puisque en fait je parlais de référentiel commun, France catholique, journal dont je fais partie, c'est vrai qu'on essaie en fait quand même de contribuer à la formation et un peu à l'intelligence aussi en fait de ces questions fondamentales qui sont aussi l'au-delà, hein. Je veux dire, on vit en fait dans une perspective. C'est vrai que si vous bannissez en fait les fins dernières et si vous réduisez en fait le monde à ce qu'il est aujourd'hui et à la consommation, vous avez en fait peu de chances de vous tenir droit et de voilà et de vivre à peu près correctement votre vie d'homme. Juste en fait une petite réflexion en fait sur le relativisme. Alors juste un petit exemple. Il y a quelques années, en fait, je ne me souviens plus du tout en fait qui était l'auteur de ce livre, mais il y avait une philosophe qui avait écrit un petit bouquin qui s'intitulait La polygamie, pourquoi pas. Voilà. Donc quand on est en fait, on n'est plus dans le pourquoi. On est passé en fait au pourquoi pas. Bon, bah, effectivement, donc tout est relatif. Et j'en faisais la remarque à l'époque à Chantal Delsol, et je lui dis donc c'est le règne du relativisme. Elle me dit mais vous trouvez que tout est relatif? Moi j'ai vraiment l'impression en fait que ces relativistes, ils savent pertinemment où ils veulent nous conduire, quoi. Je veux dire, le projet politique, il est quand même là derrière, en fait, ce que l'on couvre en fait d'un mot qui est relativisme, mais il y a quand même quelque chose de concret. Il y a des buts qui sont ceux que décrivent aussi Jean-Frédéric Poisson. Donc voilà, relativisme est un mot que j'emploierai avec précaution. Alors comment on fait pour en sortir? Bon, ben encore une fois, hein, enfin pour en sortir, la vérité, la dictature, ça commence par le travestissement de la vérité. On le voit en fait à l'occasion notamment du projet en fait sur l'euthanasie. Bon, on le sait depuis Orwell, hein, la guerre c'est la paix, la vérité c'est le mensonge.
Et réciproquement.
Et réciproquement. Et donc on nous vend en fait un projet sur l'euthanasie par exemple, ou pardon, l'aide à mourir, hein, l'aide active à mourir comme on dit aujourd'hui, sous couvert de fraternité, de compassion, de liberté, etc. Donc je pense qu'il faut déjà démasquer un peu, en fait s'intéresser en effet à la syntaxe, s'intéresser aux mots, essayer de voir ce qu'il y a en fait derrière les intentions malignes qu'il peut y avoir en fait derrière un discours qui apparaît très conventionnel, très 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 policé, mais qui en réalité, pour des raisons économiques également, hein, je veux dire, c'est vrai que on sait en fait l'état de la sécurité sociale, on dit peu que la sécurité sociale, ce sont les patients en fin de vie qui pour la plupart coûte le plus cher. Je voudrais juste faire un petit peu la promotion aussi en fait d'un édito d'une tribune là qui est paru dans à l'Étéiade d'Ambroise Tourniol Duclos et qui notamment en fait parle du despotisme démocratique et il dit abusant de la passivité, citant Tocqueville, hein, abusant de la passivité du troupeau industrieux et timide que nous formons, un pouvoir immense et tutélaire se propose de nous ôter le trouble de penser et la peine de vivre au point de nous administrer l'extrême onction naguère confiée à l'État.
Voilà. À l'église.
Confié à l'Église. Voilà, donc assumons en fait le trouble de pensée et la peine de vivre, et peut-être que déjà... Et je pense aussi, en fait, tout le discours qui consiste à dire aujourd'hui, et on le comprend, on va éradiquer la souffrance, en fait, tout le discours en fait sur la souffrance, je veux dire, il y a aussi en fait une peine de vivre, hein, les soins palliatifs, oui, bien évidemment, il faut les développer, mais je ne pense pas que l'on puisse construire simplement un discours contre l'euthanasie en disant on va lutter en fait contre la souffrance. Voilà, non, malheureusement, je pense qu'il faut aller au-delà, quoi.
Jean-Frédéric,
parfaitement d'accord avec tout ça. Deux remarques. La première, il faut que nos auditeurs et nos concitoyens soient conscients de l'énergie qui a été déployée par les mutuelles pour faire adopter le texte sur l'euthanasie. C'est impressionnant. On comprend très bien la logique, d'ailleurs.
Bien sûr, c'est pas difficile à comprendre.
Voilà, donc je ne détaille pas, chacun aura compris, mais s'il fallait avoir une interrogation sur le côté mercantile de l'opération, enfin, tout le monde comprend bien que... Voilà. Deuxièmement, sur le relativisme, pour compléter ce que vient de dire, je partage intégralement Fabrice Moidas, j'ai intitulé un des chapitres du livre « La dictature du bien, la bourse ou la vie ?» Mandrin et ses complices sur les routes médiévales de notre beau pays approchaient les voyageurs en leur disant la bourse ou la vie, c'est-à-dire tu me donnes ton portefeuille sinon je te tue. Nos néolibéraux pratiquent une autre version de la bourse ou la vie, c'est donne-moi un peu de ta vie et tu garderas ta bourse.
Tu garderas une partie de ta bourse parce
tu garderas une... Tu gardes, oui,
une partie limitée quand même de ta bourse
la portion congrue, c'est comme ça. Disent les moines. C'est-à-dire au fond tu veux avoir un peu de confort, fous-nous la paix. C'est le livre des conseillers de Macron, Amiel et Émélien, qui ont publié il y a 8 ans maintenant, 7 ans, 2019, un livre s'appelle Le progrès ne tombe pas du ciel, tout est dans le titre. Je dis souvent que ça fait partie des livres qu'on a le droit de voler tellement il y a là un crime contre l'intelligence qui devait être puni. Et si j'avais rendu ça comme mon mémoire de maîtrise, je n'aurais pas eu mon diplôme, je vous le dis tout de suite. Et ces conseillers de Macron écrivent très bien dans le livre qu'au fond, un des pôles centraux du projet macroniste, c'est la disparition des corps intermédiaires. Parce que ce sont des empêcheurs de dépenser en rond, si je peux dire les choses ainsi, et de tourner en rond. Et donc ils disent, au fond, les corps intermédiaires, bah écoutez, vous faites des kermesses, faites griller des merguez, jouez aux boules, occupez-vous de vos adhérents, puis laissez la politique aux grandes personnes. Soyez gentils, c'est une affaire sérieuse, vous ne pouvez pas prétendre vous occuper de ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Parce que une partie du confort consiste à se taire. La contrepartie du confort, c'est le silence. C'est le silence, c'est-à-dire, vous avez raison de dire que la première marche de la dictature, c'est le travestissement du réel et de la vérité. La deuxième, c'est la réduction au silence de ses opposants.
À propos de silence, il y a Paul Marie qui veut parler ce
matin. Qui est silencieux
et qui voudrait en sortir.
Non, vous parlez d'or, bravo à vous trois. Et bravo d'avoir posé finalement, je ne sais pas, on ne sait pas à quel sens se vouer, mais peut-être la question la plus importante aujourd'hui, philosophiquement, c'est la question du statut de la vérité que soulevait Jean-Frédéric au début de l'émission et qu'il soulève dans ce livre dont je le félicite d'ailleurs. Je l'ai lu hier en sachant qu'on échangerait aujourd'hui, comme on dit maintenant. Et bravo aussi de référer à Platon, comment ne pas conseiller la lecture des dialogues socratiques et de la République, cette fameuse parabole de la caverne. On flotte entre trois univers qu'il faut nous attacher à distinguer. La vérité, l'univers de la vérité, l'univers de la réalité, qui n'est pas la même que la vérité. Ne serait-ce que parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est le mensonge. Et le mensonge est une réalité majeure. Donc, c'est vous dire, si on est loin de la vérité, il faut distinguer les deux. Et justement, le troisième compère, c'est le mensonge dans lequel on nage. Le Nouveau Conservateur a consacré tout un numéro. Vous vous souvenez, Guillaume, assez prémonitoire, de certaine façon, l'Occident s'effondre dans l'océan de ses mensonges.
Se noie dans l'océan des mensonges.
Se noie, c'est ça. Bon. C'est ça, les États-Unis, c'est le cas. Et en effet, il faut référer à Lippmann, à Bernays, auquel nous avons consacré dans nos premiers numéros plusieurs articles. C'est un univers de mensonges et nous sommes emportés dans un univers de mensonges. C'est très intéressant de rétablir l'intelligence dans cette circonstance-là. C'est peut-être un rôle énorme pour la France, justement, et pour les intellectuels français indépendants, c'est-à-dire pour nous, tout simplement. Fabrice Madouas, à qui je demande bien pardon de l'avoir appelé, je ne sais pas par quelle inadvertance, Frédéric.
C'est un très bon prénom, personne ne t'en veut.
Ah, vous avez vraiment le rire des désespérés, c'est magnifique. On est dans une situation, à mon avis, de profond désespoir, et vous avez l'arme première qui est l'humour, après quoi l'arme deuxième, c'est la seconde arme, c'est l'intelligence. Mais il faut commencer par l'humour pour se distancier du fatras des mensonges. Fabrice, donc, parlait de la difficulté de converser, de la langue, la réappropriation de la langue, de la faculté d'articuler des pensées, comment ne pas relier avec un diagnostic très bien posé par la dernière encyclique du pape, qui est chose à voir avec ce qu'on appelle maintenant le déclin cognitif, c'est-à-dire quelque chose qui est très bien référencé dans l'Occident, mais je crois qu'il est assez universel, c'est-à-dire la diminution de la capacité cognitive des hommes, c'est-à-dire Bernanos aurait dit l'augmentation vertigineuse de l'imbécilité, qui est un autre fait majeur de l'époque. Faute de pouvoir converser, faute de pouvoir retrouver le statut de la vérité, réordonner nos pensées dans le souci de vérité. Et en plus d'avoir des instruments rationnels, comme la langue et l'art de raisonner, qui est en train d'être pulvérisé, comme le disait Fabrice tout à l'heure.
Et la langue française en particulier, qui est une langue extraordinairement rationnelle, qui a été jusqu'au XVIIIe siècle la langue de la raison.
C'est la langue du logos, oui. Justement, le seul échange que j'ai pu avoir avec Benoît XVI quand il est venu au Bernardin, il s'était exprimé parfaitement en français, je lui ai demandé si la langue du Vatican était toujours la langue officielle du Vatican était toujours le français. Il m'a dit... Enfin, il a répondu gentiment, il était plus dur, bien sûr. Oui, plus ou moins, mais bon, je n'ai pas poursuivi la conversation. Mais la France et la langue française ont une responsabilité immense. Voilà. Et c'est bien de sourire, et c'est bien aussi de nous réapproprier l'intelligence dans un monde dans lequel nous enfonçons les yeux fermés, abrutis que nous sommes, en tous les cas, la plupart de nos contemporains, de mensonges que l'on n'arrive plus à discerner, parce que nous n'avons plus les instruments élémentaires de la raison. Le déclin cognitif de l'humanité, c'est vertigineux, tout simplement à cause des machines, parce que les machines résolvent la plupart des problèmes immédiats auxquels les hommes sont confrontés. C'est ce qui avait rendu les hommes intelligents. C'est être confronté à des problèmes qu'il faut surmonter. Bon,
j'ajouterais quand même un élément au déclin cognitif dont vous parlez. Je pense que c'est très, très vrai et très important dans le monde que nous vivons. Mais il y a quelque chose dans le déclin cognitif qui échappe aussi aux machines, qui est profondément humain, qui est que si on laisse la pente du péché originel fonctionner, on va de moins en moins bien, c'est normal. En fait, il faut faire l'effort de marcher sur le chemin de la grâce pour que la nature humaine soit à peu près performante. Quoi. Pardon de le dire aussi trivialement.
Mais le déclin est naturel, c'est ce que vous
dites. Moi, je crois qu'une des graves erreurs de la modernité, c'est l'évolution, cette pensée que forcément, si on ne fait rien, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est complètement idiot. Et pourtant, c'est extraordinairement puissant dans l'esprit de nos contemporains.
C'est pas neuf d'ailleurs, hein, parce que la question se pose avec acuité à l'occasion du débat sur l'IA qu'a relevé le Saint-Père, mais la question se posait déjà il y a des années, ben, ne serait-ce que pour le GPS. C'est à ce moment-là que j'ai compris comment l'humanité était en train de régresser. Longtemps, je n'ai pas voulu utiliser le GPS parce que ça permet d'aller n'importe où sans jamais savoir où l'on est, en fait. C'est-à-dire, vous voyez, est-ce que l'on gagne, est-ce que l'on perd. On peut aller n'importe où, mais on ne sait jamais où on est. Bon. Enfin, pour les contemporains qui ne regardent plus de cartes et qui n'ont plus aucune notion de géographie, c'est-à-dire de cette réalité qui mène aux vérités. Bref, parce qu'il y a des réalités qui mènent aux mensonges. Alors, on sort d'un mensonge, on baigne dans un mensonge énorme, c'est tous les mensonges qui entourent l'euthanasie. Là, je vais poser une question à Jean-Frédéric et à vous trois d'ailleurs, et c'est tout, je poserai la question, vous répondrez comme vous l'entendrez. Nous avons un peu de temps. Il y a du mensonge partout dans la loi euthanasie. La preuve, c'est que plus on progresse, plus le nombre de députés qui s'y opposent grandit. C'est-à-dire, à mesure que le débat... Il est temps de clore le débat. On a compris qu'il allait passer là. Moi, je me souviens de Jean-Frédéric qui me disait il y a un an la loi ne sera pas adoptée avant l'automne. Et je crois que c'était le calendrier initial, en effet.
Oui.
Mais ils ont accéléré parce qu'ils voyaient bien que le débat tuer le mensonge, le reste de débat qui nous reste, et bravo à Jean-Frédéric pour l'énergie prodigieuse qu'il a déployée depuis des années, depuis son livre précédent sur les soins palliatifs, énergie prodigieuse de Jean-Frédéric qui finalement a porté ses fruits, et de nous tous, parce qu'on a commencé à rétablir des vérités au milieu des mensonges criminels qui ont entouré la loi sur l'euthanasie, d'autant que les précautions sont tombées les unes après les autres. Il y a une phrase que je ne peux pas manquer de citer, celle du ministre néerlandais de la Santé, qui il y a une dizaine d'années, déjà une douzaine d'années, avait porté la loi sur l'euthanasie, qui a été étendue sans cesse. Et quand il a appris qu'elle avait permis cette loi à une jeune fille de 12 ans de demander à être euthanasiée et qui est morte, il a dit « si j'avais su la vérité, sur ce qui nous poussait à élaborer cette loi, mais je ne l'aurais pas proposé. » Voilà. Donc, et combien de députés, dans 10 ans, allons-nous entendre « Ah, si j'avais su, je n'aurais pas voté. » Ben, ils le diront comme pour l'avortement ou le meurtre d'enfant. Absolument. Etc. Ça sera trop tard. Et alors, trop tard, voilà ma question. Trop tard. Nous avons commencé à substituer un peu de raison et d'humanité dans cette entreprise euthanasiaque générale. Et comme ils ont accéléré, je pense qu'à la fin de ce mois de juillet, qui s'ouvre aujourd'hui, funestement, le lendemain de l'adoption en troisième lecture de la loi à l'Assemblée nationale, reste le Sénat, mais on pense que la signature, la promulgation aura lieu, enfin le vote définitif le 15, la promulgation quelques jours plus tard, à moins que le Conseil constitutionnel soit saisi, il peut très bien répondre en 8 ou 10 jours, c'est-à-dire le 31 juillet, tout sera bouclé. Bon, et voilà que le pape arrive. Alors je vous pose la question, mes chers amis, je connais chacun de vous trois, et j'ai entièrement confiance en vous, et je vous parle en ami. Est-ce qu'il ne faut pas demander en chrétien au pape de sursoir sa visite? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver, il va être de miel, évidemment, avec les autorités locales, comme il est de tradition quand on est en visite officielle. Et ces autorités locales, c'est-à-dire locales, nationales, le président de la République en particulier, auront encore sèche l'encre de leur approbation à une loi, à la promulgation d'une loi qui autorise la mort, c'est-à-dire que tu ne tueras point, qui est le point cardinal de la civilisation chrétienne, de toute civilisation à mon avis, mais surtout chrétienne, est pulvérisée une fois de plus, comme elle a été sur l'avortement, et c'est le moment où arrive le pape. Alors, Il est allé à Monaco au mois d'avril, il est allé en Algérie. Pourquoi n'est-il pas venu en France nous aider à faire progresser le débat avec le prestige qui s'attache à sa personne et à sa fonction, bien entendu? C'était à ce moment-là qu'il fallait venir. Venir au mois de septembre, ça me paraît incongru.
Et Paul Marie, il n'est pas exclu qu'il ait été un peu berné sur le calendrier. On l'évoquait hier au téléphone. Il est possible qu'il ait pensé que justement, ça serait la dernière ligne droite et que c'était le moment ou jamais de venir.
Oui, Guillaume, je suis sûr qu'il y a un mensonge cardinal, si je puis dire sans aucun jeu de mots, parce que c'est beaucoup trop grave. Macron a dû dire, quand il est allé en visite éclair à Rome, on a compris que c'est à ce moment-là qu'était arrêtée la date et peut-être ont été arrêtés les détails du voyage. Je suis sûr, pratiquement sûr, qu'il a fait un énorme mensonge au Saint-Père en disant ce que nous croyons, c'est pour ça que je le rappelais tout à l'heure, comme me l'avait dit Frédéric, que très certainement, sans accélération, la loi serait arrivée en dernière lecture en septembre-octobre et que le pape serait arrivé à temps pour, en tous les cas, illuminer un peu davantage le débat et nous aider à le mettre dans sa lumière. Je suis sûr que Macron a menti au Saint-Père. Est-ce qu'on ne peut pas demander en chrétien français, Saint-Père, est-ce que c'est le moment? N'avez-vous pas été trompé? Est-ce que vous mesurez le sens qu'a votre voyage à cette date? Et d'ailleurs, s'il pouvait le remettre à l'après Macron, ça ne serait pas plus mal. Voilà la question que je vous pose, elle est trop longue.
Fabrice, est-ce que vous voulez répondre?
Non, mais j'entends en fait que la question se pose. C'est vrai en fait que la question du calendrier, la date, il eût mieux valu que le pape vienne plus tôt. Je pense quand même qu'il vaut mieux qu'il vienne, quoi qu'il en soit, ne serait-ce que pour tenir un discours de vérité. On l'a vu au Cortés espagnol, il a quand même eu des propos très forts. Quand il est en Algérie, il a dit aux autorités.
Fabrice, mais au Cortés, la loi a été votée depuis un moment, et c'est pas tout à fait la même chose de venir pour le coup quand l'encre est sèche et de venir bénir un gouvernement qui vient de légaliser.
Non, mais je ne pense pas en fait que le pape vienne bénir un gouvernement. Quand il est allé en Algérie, il a dit aux autorités algériennes, finissons-en avec le ressentiment. Quand il est allé en Afrique, il a dit aux autorités africaines, attention à la corruption. Je pense que il tient quand même un discours de vérité et que précisément, et je pense que ce discours-là n'est pas simplement d'ailleurs à destination en fait des autorités. C'est-à-dire que il y a aussi en fait de bons paroissiens qui parfois se disent dupes en fait de la compassion, du discours compassionnel que peut porter le gouvernement, peuvent être troublés dans ses convictions. Donc je pense que de toute manière sa venue en fait fera du bien à tout le monde. Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas en attendre, et j'espère, mais malheureusement ils sont suffisamment dupes en fait pour jouer ce jeu-là, j'espère que ceux qui entendront ce discours sauraient en tirer les conséquences, ou en tout cas qu'ils n'attendent pas que le Saint-Père les blanchisse et les bénisse, précisément. Qu'ils n'attendent pas.
Et la machine de mort se fonctionnera à plein régime à partir du mois de septembre.
Mais il se pose en fait quand même, alors tous les décrets d'application ne seront pas pris, et il se pose quand même en fait des questions encore, qui est, par exemple, aujourd'hui, les établissements de soins catholiques seraient obligés d'appliquer en fait cette loi-là dans le texte tel qu'il est voté, ce qui est absolument scandaleux.
C'est ce qu'a dit l'évêque d'Évry, je crois, je ne sais plus. Il va falloir, comme en 1903, il va falloir partir, quitter la France.
Et alors, là, on ne l'a pas dit, mais les établissements catholiques en question, c'est des dizaines de milliers de lits, loin en fait de 100 000 lits.
Dans la situation de l'hôpital actuel.
Situation de l'hôpital actuel, en fait, c'est criminel également. Les petites sœurs des pauvres et bon nombre de maternités catholiques aussi, parce que parfois, en fait, il y a des soins en fait en néonatologie avec des grands prématurés, où se pose la question en fait de la vie et la mort. Donc, il y a beaucoup d'établissements en fait qui sont concernés et que le pape puisse venir, mais effectivement, il faut compter sur lui pour qu'il ait en fait ce discours de vérité qu'il a d'ailleurs toujours tenu.
Jean-Frédéric, vous... toujours tenu. Jean-Frédéric, vous voulez...
Je partage assez l'avis de Fabrice Madouas. Je me dis que il n'y a pas de mauvais moment pour le pape pour venir en France, et moi je suis ravi qu'il n'abandonne pas le petit troupeau de fidèles de la fine et de l'Église. Premièrement, deuxièmement, je trouve que au milieu des difficultés terribles qui sont celles de l'Église universelle d'aujourd'hui, les actes de gouvernement qu'il pose et le discours qu'il tient sont quand même plutôt rassurants. En tout cas, ça nous change un peu sans entrer dans un détail trop fin. Troisièmement, je trouve que la fermeté dont il fait preuve dans ses récents discours sur les questions dont nous sommes en train de parler est exemplaire, d'ailleurs à l'image de tous ses prédécesseurs. On peut faire beaucoup de reproches au pape François, mais pas celui d'avoir flanché sur, sur la défense de la vie. Et quatrièmement, je partage l'inquiétude en revanche de Paul-Marie Goutaud sur la capacité du pouvoir politique français à transformer en coup de goupillon une visite officielle papale.
Et la manipulation est toute trouvée.
Hein. Là, mon cher Paul-Marie, vous êtes mieux placé que nous tous pour savoir que dans un discours, un échange de discours dans un contexte diplomatique, il y a un certain nombre de scuds qui peuvent être envoyés sans que personne ne s'en rende compte de trop, mais enfin que ceux qui doivent comprendre, comprennent. C'est ça un peu le sujet. Par ailleurs, je vois que le pape a une parole suffisamment libre à titre personnel pour ne pas hésiter à entrer dans des sujets un peu difficiles. Je comprends, pour m'être un peu renseigné sur cette question, que le discours sur l'Europe, par exemple, qu'il s'apprête à prononcer à Metz le 28 septembre, ne sera pas autre chose qu'un appel à ce que l'Europe soit un instrument de propagation de la paix, ce qui est déjà considérablement en opposition avec l'orientation actuelle de la Commission, si ça ne vous a pas échappé. Et il ne peut pas être question que le pape vienne en France pour... on a le droit de sourire un peu dans cette émission, mon cher Guillaume de Thielois.
C'est autorisé.
Donc pour condamner à nouveau l'action française, pour, si vous voyez ce que je veux dire.
Ça va remarquer, ça serait le centenaire, c'est la bonne...
Oui, c'est la bonne année, c'est vrai. Ça va pas être possible. Donc on peut... Non, le pape ne peut pas... Je crois qu'il ne l'envisage pas, d'ailleurs. Et ce que je crois comprendre des éléments qu'il demande à ce qu'on lui fournisse en vue de sa visite en France, vont dans le sens, au contraire, d'une insistance sur l'Europe comme facteur de paix et pas sur une espèce de critique ou de condamnation de tout ce qui pourrait être attaché à la nation. Donc, si
alors, attendons la visite quelques... de Saint-Père.
Voilà, attendons la visite et prions pour qu'elle se passe bien.
Fabrice, peut-être une petite page de publicité pour terminer. Allez-y. France catholique, justement, parler d'euthanasie et de la figure de Jérôme Lejeune.
Oui, alors de toute manière, on a suivi et on continue de suivre ce dossier, bien évidemment, de semaine en semaine. Juste, je voulais signaler, même s'il est sorti il y a 15 jours déjà, le numéro que nous avons publié sur Jérôme Lejeune, apôtre de la vie, lui aussi en fait qui est une victime en quelque sorte de cette dictature du bien, puisqu'il était promis au prix Nobel et évidemment on lui a refusé parce que il défendait la vie de façon en fait trop virulente et au goût de certains et avec trop de force et de vérité.
Merci beaucoup à tous, ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, je pense que ce sera Valentin qui animera. Et nous nous retrouverons, nous, dans quelques semaines. D'ici là, que Dieu nous garde.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé aujourd'hui par Guillaume de Thieulois, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 1er juillet 2026 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.